Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Même si elle semble disparaître un peu dans les effluves de gaz lacrymogène qui recouvrent les Champs-Élysées depuis deux samedis, la question environnementale fait l'objet d'une prise de conscience manifeste avec notamment des marches régulières dans le monde entier pour le climat. Et alors que la COP24 a débuté hier en Pologne, malgré les défis environnementaux, la gestion des déchets collectifs, individuels, industriels ou liés à la consommation courante est une vraie question. Diminuer les déchets pour faire diminuer la pollution est le chemin qu'ont décidé d'explorer les partisans du zéro déchet, c'est-à-dire plus aucun produit laissé derrière soi après consommation. Mais cet objectif zéro déchet est-il réaliste? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Thibaut Turchet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des affaires juridiques de l'ONG Zero Waste France. Et Elder de Oliveira, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'ORDIF IAU, c'est l'Observatoire Régional des Déchets d'Île-de-France, Institut d'Aménagement et d'Urbanisme. Les déchets en France, c'est 325 millions de tonnes par an, c'est-à-dire un peu plus de 500 kilos. Par habitant, dans le monde, la production de déchets était de 2 milliards de tonnes en 2016. Ce sont les chiffres de la Banque mondiale et cela va en augmentant. Est-ce que tout ça vous paraît maîtrisé, Elder de Oliveira?
Maîtrisé, pas tout à fait. En tout cas, on a une évolution qui est très forte depuis la fin de la Première Guerre mondiale, où à Paris, par exemple, on a doublé la production de déchets par an et par habitant. Mais je reste optimiste. Votre intitulé, c'est est-ce qu'on peut arriver à faire le zéro déchet? Parce que depuis 2000, on a une tendance, en tout cas en Île-de-France, par habitant, à non pas vraiment une baisse, ou presque une baisse, mais en tout cas un tassement de cette production de déchets par habitant. Et ça nous ouvre des perspectives.
Cette tendance à l'augmentation au niveau mondial, au niveau parisien ou Île-de-France régional, ça a l'air d'être assez stable. C'est quelque chose qui vous inquiète, Thibaut Turchet?
Oui, et c'est le sens de notre action. Alors, je reprends juste le chiffre que vous avez donné au début. La production totale de déchets en France, si on divise par habitant, c'est 5 tonnes. Mmh. Et c'est en ajoutant le BTP, etc. Les strictement déchets ménagers, c'est presque 600 kilos quand on inclut les déchets, etc. Mais ce qui est considérable. Et le problème des déchets, c'est qu'en fait, leur production est en général indexée sur le niveau de richesse, le PIB, c'est l'indicateur classique. Donc, plus on fait de PIB dans un pays, et plus on fait de déchets et de déchets par habitant. Donc, essayer de coupler développement et pas trop de déchets serait une ambition importante pour le siècle à venir.
Ça veut dire que pour limiter la production de déchets, il faut viser la croissance zéro?
Ça fait partie des sujets, le niveau de consommation, et c'est d'ailleurs un sujet qu'on explore en tant qu'associatif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va consommer, pour quel usage, pour quel besoin. Et évidemment, aujourd'hui, la surconsommation, en tout cas dans les pays occidentaux, est vraiment un sujet pour aussi s'adresser, gérer la question des déchets, même si ça peut paraître assez éloigné comme ça au début. En fait, c'est assez lié.
Alors Thibaut Turchet, vous l'avez dit en creux, la principale source de déchets, c'est les déchets du bâtiment. Comment est-ce qu'ils sont traités? Qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est quoi les déchets du bâtiment, Elder de Oliveira?
Alors les déchets du bâtiment, c'est d'abord de la terre. C'est de la terre qu'on excave pour creuser, pour faire des tunnels, pour faire des caves. Et ça, par exemple en Île-de-France, c'est la moitié de tous les déchets d'Île-de-France. C'est 15 millions de tonnes. Les déchets du bâtiment, c'est aussi les bâtiments, les déchets inertes, le béton qu'on détruit. Et celui-là, on peut le recycler facilement. Mais le mieux encore, c'est de ne pas avoir à le détruire et de réutiliser les bâtiments quand on peut le faire. C'est le cas, par exemple, dans le 19e et 18e, de toute la zone McDonald's, où ils ont réutilisé les bâtiments qui étaient là pour construire un nouveau quartier. Et puis, les déchets du bâtiment, c'est aussi tout ce qu'il y a dans les immeubles, tous les appareils, tout ce qu'on appelle les déchets non dangereux, qu'il faut démonter un à un si on veut vraiment les récupérer et les réutiliser. Et puis, il y a aussi quelques déchets dangereux, justement des systèmes électriques, des systèmes comme ça qui peuvent être délicats. Et cela, il faut vraiment les démonter avec particulièrement d'attention. Et c'est pas toujours le cas aujourd'hui.
C'est cet aspect déchets du bâtiment, c'est le centre de votre action chez vous, à Zero Waste, Thibaut Turchet, ou c'est...
Non.
Enfin, vous êtes plutôt sur les déchets individuels.
On se focalise sur les déchets ménagers, qui pèsent quand même 37 millions de tonnes en France, parce que une bonne partie de ces déchets-là, deux tiers environ, sont soit envoyés en décharge, soit en incinération, qui sont deux modes de traitement et de gestion des déchets que l'on conteste dans leur caractère peu écologique, en l'occurrence. Donc, on aurait plus de moyens en tant qu'ONG, on s'attaquerait aussi au BTP, mais on ne peut pas être sur tous les fronts.
Ouais, vous commencez par là. Les déchets donc individuels ou ménagers, comme vous dites, c'est quel type de déchets ? C'est des plastiques, c'est des déchets qu'on pourrait éventuellement composter. Comment de quoi c'est composé en général ?
Beaucoup
d'emballages, j'imagine.
Facilement, ce qu'on peut voir, c'est ce qui est collecté en porte-à-porte. Donc, il y a du verre, du plastique, beaucoup de déchets organiques. C'est assez significatif. Et puis, ce qu'on apporte en général en déchetterie, ce sont les petits objets du quotidien. Ordinateurs, encombrants, piles, etc., etc. Donc, en général, des déchets qu'on qualifie juridiquement de non dangereux, même si au final, une partie, au final, quand on les envoie soit en incinération, soit en décharge, clairement, ça pose problème environnemental. Donc, c'est une classification qui est assez rigide et purement juridique, quoi.
Thibaut Turchet parlait à l'instant de tous ces produits ménagers, enfin, ou de consommation qui finissent en déchetterie. Alors, pour le consommateur qui les emmène en déchetterie, ils finissent en déchetterie. Mais ils deviennent quoi après Elder de Oliveira ?
Alors c'est très variable selon les flux. La particularité en France et en particulier en Île-de-France, c'est que beaucoup de déchets recyclables qui pourraient être recyclés ou qui pourraient être compostés sont aujourd'hui simplement détruits. Détruits parce que depuis un siècle, on est dans une logique de massification, plus d'un siècle, où pour l'agglomération parisienne, par exemple, on incinère la plupart de ces déchets, parce que c'est beaucoup plus simple, et on fait de l'énergie avec. Et une grande partie de ces déchets, ils pourraient être recyclés, ils pourraient être compostés, alors qu'ils ne le sont pas vraiment pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a une ville très très dense et c'est plus compliqué à collecter. Et puis parce que depuis un certain...
J'explique ce que vous dites. Ça veut dire que les gens chez eux, ils n'ont pas forcément la place à Paris ou dans la région parisienne d'avoir plusieurs poubelles, de faire un tri très 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 sélectif chez eux. C'est ce que vous...
Voilà, c'est un problème de place dans les immeubles, mais c'est aussi dans la ville. Hein. Vous parliez des déchetteries, il n'y a pas suffisamment de déchetteries dans l'agglomération parisienne. On a une déchetterie pour 140 000 habitants, alors qu'ailleurs en France, on en a une pour 14 000 habitants. Donc il y a aussi un problème de place en termes d'outils, pas seulement dans les appartements et puis dans les immeubles. Dans les immeubles, vous n'avez pas forcément tous les flux possibles pour trier. Donc il y a une vraie question de organisation de la ville qui rend les choses un peu plus difficiles dans une zone aussi dense que Paris.
Alors, Zero Waste France, Thibaut Turchet, ça veut dire donc zéro déchet,
oui.
France, ça veut dire que est-ce que vous tentez de vivre en produisant zéro déchet? C'est ce que vous essayez de faire au quotidien?
Oui, oui.
Personnellement, je veux dire.
Alors, ouais, moi, à titre personnel, tout à fait. Et c'est vrai que le nom peut choquer et se dire, oh là, ceux-là, ils sont complètement utopistes. Mais le but, c'est bien se donner une ambition claire, ferme, et qui s'applique à tous les types de déchets, qu'ils soient, en fait, recyclables ou pas. Et le mot waste, alors, pour expliquer l'anglicisme de notre nom, on l'a choisi parce que ça signifie déchet, on voit bien ce que c'est, et puis ça signifie aussi, en anglais, gaspillage. Je sais pas, un pot de yaourt qu'on jette, c'est un déchet, mais c'est aussi du gaspillage lorsqu'il n'a pas été consommé.
Alors, vous allez peut-être nous dire concrètement, ça veut dire quoi vivre en essayant, je ne suis pas sûr que vous y arriviez, vous allez nous le dire peut-être, ça veut dire quoi vivre en produisant zéro déchet?
Ça veut dire essayer de satisfaire ses besoins d'une autre manière. Typiquement, l'alimentation, moi je fais l'essentiel de mes courses en vrac. J'essaye de fréquenter des magasins où il y a des bouteilles en verre qui sont consignées. J'essaye d'acheter d'occasion, de donner les choses que je n'utilise plus. Malheureusement, je ne peux pas composter chez moi. J'ai vraiment un trop petit appartement, même pour un lombric composteur. Mais le jour où la mairie de Paris aura déployé une collecte séparée de biodéchets, le peu que je produis pour être composté. Donc c'est regarder un petit peu tout ce qu'on achète habituellement et soit le consommer et satisfaire son besoin différemment, c'est le cas de la vente en vrac, soit aussi tout simplement arrêter de le consommer. Je vais peut-être pas forcément raconter ma vie au micro, mais il y a des choses où on se dit bon bah ça en fait j'en ai pas besoin, le café, la cafetière Nespresso typiquement, bon bah moi je considère que voilà, ça ne rentre pas, ce n'est pas compatible avec mon mode de vie, donc j'évite.
Donc je vous repose la question. Vous tentez de le faire, est-ce que vous y arrivez? Vous faites zéro déchet ou pas?
Non. Pour l'instant, non. J'ai jamais pesé, mais je pense que je suis au moins 4 ou 5 fois en dessous de la moyenne nationale. Non, non, non. Et c'est bien le problème, c'est-à-dire que bon, une fois qu'on s'engage, on fait des pas et il y a une grosse marge de manœuvre. Ça, c'est évident. Mais le système aujourd'hui n'est pas facilitant pour toute personne qui, disons, voilà, normal, sans être ultra écolo, change son mode de vie. Donc il y a des choses à adapter pour que ça devienne la norme, en fait, une nouvelle norme quelque part.
Et alors, Elder de Oliveira, justement, le zéro déchet, est-ce que c'est en train de devenir un objectif collectif ou politique au niveau local? Est-ce que ça va maintenant au-delà des tentatives individuelles ou militantes comme celle de Thibaut Turchet?
Alors oui, alors le zéro déchet, c'est comme la vie. Hein. Ce qui est important, c'est pas l'aboutissement,
c'est le chemin.
Voilà. Et ce qui est intéressant avec le zéro déchet, c'est que c'est un nouvel avatar d'une démarche qui est apparue dans les années 70 avec les premières lois déchets, qui a été symbolisée par la directive européenne en 2008, qui disait. Qui voulait créer une société du recyclage avec une hiérarchie, d'abord prévenir, ensuite réutiliser, ensuite recycler, ensuite valoriser, puis enfin, s'il reste quelque chose, on élimine, au sens de la loi. Voilà. Et on a eu l'économie circulaire aussi depuis quelques années, puis le zéro déchet, c'est une autre forme de montrer cette démarche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, il y a une demande sociale qui est de plus en plus forte sur cette question de zéro déchet. Moi, je me souviens d'une employée de mairie dans le 19e, Nathalie Daclon, qui avait distribué en 2003 les 15 premiers composteurs individuels et elle était une extraterrestre à l'époque. Aujourd'hui, la ville de Paris, elle en distribue plusieurs milliers par an et elle n'arrive pas à faire face à la demande. Donc il y a une demande de plus en plus sociale sur toutes ces questions-là.
Alors, il y a aussi un côté économique. Hein. En préparant cette émission, je me suis rendu compte, et même si je le savais plus ou moins, enfin, j'ai eu l'ampleur des chiffres, c'est 130 000 emplois dans la filière du traitement des déchets en France qui sont concernés, 130 000 équivalents de temps plein. Et je vous pose la question assez directement, est-ce que l'objectif zéro déchet, sachant que 130 000 emplois en dépendent, est-ce qu'il est vraiment souhaitable, Thibaut Turchet?
Oui. Alors, tout problème des transitions, c'est qu'en général, ça détruit les emplois quelque part.
Et
en fait, ça en crée à d'autres endroits. Typiquement, si demain, les grands supermarchés, voilà, qui vendent beaucoup de choses emballées, ont converti tout ça en petite épicerie vrac, etc., on sait que le ratio d'emploi au mètre carré est plus intense. Pareil pour le réemploi, la réparation. L'ORDIF, d'ailleurs, en fait, produit ces chiffres-là assez régulièrement. C'est x10 quand on passe en cyclage, x30 et x plusieurs centaines d'emplois en plus pour un même service quand on passe en mode zéro déchet. Donc c'est très créateur d'emplois, simplement d'autres emplois, et forcément ce qui est sous-jacent, c'est que ça froisse des intérêts industriels établis, mais c'est pas le seul domaine, hein, les déchets où on froisse des intérêts industriels, et tout l'enjeu est là, de faire une transition qui soit pas trop longue, hein, pas 2050 ou 2100, mais demain.
Elder de Oliveira, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, je voudrais tordre le cou à une idée reçue, c'est que justement, parfois des gens ne trient pas ou critiquent le zéro déchet en disant, ou d'autres démarches du même type, en disant qu'ils veulent pas faire le travail des éboueurs, ils veulent pas détruire des emplois. Alors que c'est exactement l'inverse, hein, quand vous triez vos emballages, vous créez 25 emplois pour 10 000 tonnes. Quand vous mettez les déchets dans une décharge, c'est un emploi pour 10 000 tonnes. Vous voyez, donc il n'y a pas photo. Et toutes les démarches comme ça qui remettent de l'humain quelque part dans le dispositif, ils créent de l'emploi. Et c'est peut-être un des cas particuliers de la gestion des déchets par rapport à d'autres sujets où plus on développe une démarche environnementale performante et ambitieuse, plus on crée de l'emploi.
Alors, des efforts sont faits. Il y a le tri sélectif, hein, depuis plusieurs années. La fameuse poubelle jaune dans les immeubles, le recyclage. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France et en Ile-de-France en particulier, Elder de Oliveira, sur le tri et le recyclage?
Alors, on est très loin.
On est très loin de quoi? Très loin du départ ou très loin de l'arrivée?
On est très loin. Ça fait quand même 20 ans qu'on a mis en place progressivement les choses pour le recyclage des déchets solides. Et on a des performances qui sont relativement mauvaises pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure sur la densité. Peut-être pour un manque de mobilisation générale de l'ensemble des acteurs aussi, parce que ça demande un effort particulier dans une zone comme l'agglomération parisienne. Mais ça, si on retourne la question, on peut se dire qu'on a plein de potentiel de développement et on a peut-être de nouvelles choses à inventer pour vraiment aller chercher ces déchets, les recycler davantage. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, j'ai cru que le problème de déchets, c'était une question politique, une question de citoyenneté. Et en fait, ce qui se passe de plus en plus, c'est que il y a de plus en plus d'acteurs, et en particulier plein de start-up, qui inventent des nouveaux systèmes, des systèmes de consigne, des systèmes de récupération des déchets encombrants. Par exemple, il y a une petite start-up, une grosse maintenant, qui grandit beaucoup, qui s'appelle Eco-Recyclage, qui est allée taper sur l'épaule de la ville de Paris, qui lui a dit, bon, les encombrants que les gens peuvent signaler sur leur site internet, sur le site internet pour qu'ils soient récupérés dans la demi-journée par les services de la ville, si on mettait un petit lien qui envoie directement sur un site où ils peuvent donner ces encombrants, leur canapé, leur matelas à des gens qui en ont besoin, eh bien, on rajoute ça sur le site et ça fonctionne, voilà. Et ce foisonnement d'initiatives autour des startups, c'est vraiment très intéressant. On ne sait pas où ça va aller, on ne sait pas ce qui va fonctionner, mais ça foisonne et c'est ça qui est bien.
Thibaut Turchet, le gouvernement affiche depuis quelques mois un objectif de 100% de plastique recyclé. Je ne prends pas ce produit-là au hasard, puisque évidemment c'est celui qui est souvent mis en cause. Est-ce que recycler 100% des plastiques alimentaires, notamment, enfin d'emballage, est-ce que c'est un objectif qui vous paraît insouhaitable, de réaliste?
Alors, c'est tout le problème. Souhaitable, oui. Disons que c'est mieux qu'aujourd'hui en voyant des charges ou en incinération. Le problème, c'est que souvent le mieux est un peu l'ennemi du bien et que c'est peut-être pas l'objectif principal à se fixer. Le problème du plastique, c'est qu'il se recycle quand même très mal pour tout un tas de raisons. Certains plastiques n'ont pas les bonnes performance ou sont pas une valeur suffisante, etc.
Et se mélange assez peu facilement, c'est ce que vous voulez dire?
Absolument, aussi. Il y a des questions de multimatériaux, qu'on ait plusieurs matériaux dans un plastique. Et donc nous, en tant que ONG Zero Waste, notre objectif, c'est réduire le plastique autant que possible avant de se dire comment est-ce qu'on va le recycler. Parce que c'est clair que 100% de plastique recyclé, ça va être très compliqué techniquement, même économiquement. Et c'est se donner beaucoup de peine, typiquement demain, pour recycler des bouteilles d'eau, alors qu'on pourrait tout simplement se dire arrêtons de boire des bouteilles d'eau. Exemple facile mais qui illustre bien toute la problématique. Hein. Faut-il continuer à boire de l'eau en bouteille et recycler le plastique derrière?
Néanmoins, le plastique il est là. Elder de Oliveira, comment ça se fait qu'on le retrouve dans la nature? Les infrastructures ne suivent pas? Pourquoi?
Il y a plein de raisons. Je crois que le problème de fond, c'est qu'il n'y a pas vraiment de motivation pour véritablement récupérer le plastique. Donc il y a ceux qui devraient être interdits parce qu'ils sont inutiles sur une logique vraiment de l'usage unique et du jetable, mais il y en a qui sont utiles. Il y a plein de choses en plastique dans ce studio. Et la question, c'est comment
chez
les récupérer.
Vous, chez moi aussi.
Voilà. Et comment les récupérer? Et aujourd'hui, on n'a peut-être pas pris la mesure des moyens pour motiver les gens pour les récupérer. Et paradoxalement, c'est sur les bouteilles que c'est en train de bouger, puisqu'il y a un certain nombre de distributeurs de bouteilles qui disent, bon, on ne peut plus avoir des bouteilles comme ça, en verre ou en plastique d'ailleurs, dans la nature. Et donc, ils commencent à dire, il faut rémunérer le fait de récupérer ces bouteilles. C'est le cas de grandes chaînes de supermarchés, c'est le cas de grandes marques de bière, par exemple. Et ça nous montre sans doute une direction qu'on n'a pas osé prendre jusque-là, qui était même tabou jusqu'au début de la discussion gouvernementale sur la feuille de route économie circulaire, et qui revient sur le devant de la scène. Et oui, c'est pour ça que moi, les 100% de recyclage, j'y crois moyennement. Mais si on peut faire du 100% de captage, ça sera bon pour tout le monde.
Ouais, parce que on le rappelle, le verre, par exemple, ça reste aussi longtemps dans la nature que le plastique, voire même un petit peu plus. L'économie circulaire, c'est une réalité aujourd'hui ou c'est juste un slogan, Thibaut Turchet?
C'est un petit peu les deux. C'est une ambition qui est quand même intéressante. Après, il faut voir ce qu'on met dans l'économie circulaire. Moi, l'économie circulaire où on fait de la sobriété, de la meilleure conception des produits, on essaie de pas surconsommer, etc. Je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, par exemple, des industriels mettent l'incinération des déchets dans l'économie circulaire parce qu'on fait de l'énergie, parce qu'on récupère les matériaux, on fait du remblai. Et ça, pour nous, c'est pas l'économie circulaire. Donc, faut voir évidemment toujours ce que l'on met dedans. L'économie circulaire façon zéro waste, oui. Mais c'est vrai que c'est de ce fait un sujet de politique publique assez important et l'aspect réglementaire est prédominant.
Merci beaucoup Thibaut Turchet, merci Elder de Oliveira d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Hélène Avril. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique magazine, participer au débat du jour sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.